Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Notre invité est Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère français de la Défense, auteur de nombreux ouvrages, le dernier, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel paru aux éditions de l'Aube. Pierre Conessa, bonjour.
Bonjour.
Votre ouvrage est une réflexion sur l'interventionnisme militaire et le rôle des médias. Vous décrivez un complexe militaro-intellectuel qui, au début des années 90, exerçait une véritable influence sur la politique de défense, ainsi qu'un rôle décisif dans la désignation des ennemis de l'Occident et des guerres à mener. D'abord, c'est quoi ce complexe militaro-intellectuel, Pierre Conessa? Comment a-t-il émergé et est-ce qu'il est à l'œuvre dans le cas ukrainien?
Je crois qu'il faut prendre l'analyse dans le temps long. Évidemment, tout le monde a en tête ce discours du président Eisenhower quittant son deuxième mandat, qui fait ce discours sur le complexe militaro-industriel. Et c'est vrai qu'on est dans l'époque de la guerre froide, il y a la course aux armements, il y a la rivalité États-Unis-URSS. Et lui-même a très peur que, si vous voulez, il y ait un moment où les politiques perdent le contrôle de cette espèce d'inflation des budgets de défense. Bon. Et c'est vrai que dans le contexte de la guerre froide, on était dans l'overkilling, on était dans le dépassement absolu de toutes les dépenses et sans rationalité du tout, bon, de dépenses d'armement. La transformation, à mon sens, se passe aux alentours des années 90, 91, 92, c'est-à-dire première étape quand disparaît l'URSS. Mmh. Alors évidemment, ça, c'est un choc parce que quand vous travaillez dans les milieux stratégiques et que vous n'avez plus d'ennemis, c'est un grand désarroi, je peux vous dire. La machine américaine a immédiatement réagi avec une seule interrogation en tête, c'est comment maintenir finalement cette situation d'hyperpuissance unique. Et donc, vous avez les deux grands thèmes qui sont connus, le clash des civilisations et puis la fin de l'histoire. Ce qui est assez fascinant, encore une fois, pour rester sur ce complexe stratégique, administratif, si vous voulez, c'est que cette espèce de fascination pour tout ce qui se dit aux États-Unis. Donc, le bouquin d'Huntington a été traduit en 35 versions différentes, en 35 langues. Or, il a quand même deux points faibles, à mon avis, c'est qu'il considère comme structurellement menaçant le monde arabo-musulman et le monde chinois. Quand on sait le nombre d'interventions qu'on a fait nous depuis, si vous voulez, on peut penser que les autres aient une analyse différente. Et le deuxième, évidemment, c'est Fukuyama, c'est-à-dire le triomphe du libéralisme et de la démocratie. Comme vous avez vu, il ne s'est pas trompé du tout. Il a été pour la guerre en Irak. Enfin bref, on laisse ça de côté. Le deuxième événement qui va changer la donne, c'est la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe ?
1991.
1991, parce que c'est le premier conflit post-guerre froide. Les Russes s'abstiennent. Il y a l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Peu importe les raisons, les motivations, la justesse de l'un ou de l'autre, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux phénomènes qui sont extrêmement importants. Bon, le premier, c'est que vous avez un certain Ben Laden qui dit à ce moment-là au roi d'Arabie Saoudite « Mais moi, j'ai des combattants afghans, on peut venir défendre la terre des lieux saints ». Et le monarque saoudien dit « Non, mais on parle entre gens sérieux, on va faire venir les Américains ». Et donc, vous avez une invasion de 100, 150 000 mécréants, si vous voulez, qui vont envahir la région, avec des femmes en uniforme qui conduisent, qui foutent des raclées à la police religieuse quand on les embête trop. Enfin bref, il y a une déstabilisation assez profonde de la société saoudienne. Et évidemment, Ben Laden fulmine dans son coin. Le deuxième aspect, alors cette guerre, elle a une caractéristique proprement militaire, c'est que vous vous souvenez, il y avait 6 mois de préavis d'ultimatum donné à Saddam pour qu'il quitte le Koweït, après quoi, effectivement, la guerre serait déclenchée. Donc on avait un timing qui était fixé, qui fait que toutes les chaînes de télévision mondiale viennent, à ce moment-là, assister à l'opération. C'est la naissance de la chaîne d'info en continu, puisqu'il y a CNN, si vous voulez. Mais il y a en même temps, nous, on avait, je crois que c'était la 5 ou la 6, je ne me souviens plus, mais qui faisait du continu chaque jour. Bon. Donc la guerre devient un spectacle. Deuxième caractéristique, on nous présentait ça comme une espèce de scénario hollywoodien, les forces alliées contre la 4e armée du monde. On n'a jamais su qui était la 3e. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave, elle était classée 4e. Mais ça montrait en tout cas qu'on avait en face de soi un adversaire important. Or, la guerre ne dure que 120 heures. C'est-à-dire que ça dure moins de 4 jours, 5 jours. Donc, je laisse de côté les trous financiers qu'ont laissé toutes ces installations de chaînes de télé, si vous voulez, qui se retrouvaient sur place, alors qu'il n'y a plus rien à faire. Mais en même temps, ça convainc les Occidentaux que leur suprématie militaire est telle que, finalement, étant le camp du bien et de la démocratie, ils s'auto-mandatent comme gendarmes de la planète. Et là, on va avoir, effectivement, dans la décennie 90, une somme d'interventions, à droite, à gauche, si vous voulez, qui n'ont plus rien de stratégique. Ce sont des interventions qui sont motivées par des questions humanitaires, civilisationnelles, culturelles, tout ce que vous voulez. Et c'est là qu'apparaît le complexe Mitterrand intellectuel.
Alors, est-ce que, on va développer, Pierre Gonissart, est-ce que, précisément, puisque vous expliquez que la guerre du Golfe de 1991 a été finalement le déclencheur de cette transformation, est-ce que d'après vous, alors, avec des si... poussons votre analyse plus loin, est-ce que s'il n'y avait pas eu la première guerre du Golfe, justifié par l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, il n'y aurait pas eu ni l'Afghanistan ensuite, ni l'Irak.
Ah non, parce que la deuxième époque, si vous voulez, qui est très importante à comprendre, c'est le 11 septembre. Là, encore une fois, je vous dis, dans la décennie 90, on intervient plutôt avec des fonctions de gendarmerie. Vous savez, on va en Somalie parce qu'il y a pillage des convois humanitaires, on va envoyer des gens au Timor, on va faire des interventions. Bon, en Yougoslavie, évidemment, il y avait une guerre, mais... On y va avec l'idée que, de toute façon, la simple apparition de casques bleus français et anglais vont suffire à calmer les Serbes. Bon, on a vu que ce n'était pas tout à fait comme ça que ça se passait. Mais par contre, le choc du 11 septembre, faut qu'on s'y arrête parce que le traumatisme est tel, dans la société américaine, qui est une société qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire, et donc qui ne sait pas ce que c'est que des villes rasées par des bombardements, des ravitaillements au point d'eau, des tickets de rationnement, etc. Le choc est immense. Et face à ce choc, en général, une société a deux types de réactions. Même pour la France en 40, c'est exactement pareil. C'est pourquoi nous ? Donc, faut-il s'interroger sur nos propres faiblesses, nos propres responsabilités, etc. Mais enfin, le choc pour l'Amérique était tel que vous allez heureusement avoir apparaître une strate sociologique extrêmement intéressante dans ce complexe Mitterrand intellectuel. Ce sont les psys. Parce que les psys ont l'avantage de vous dire non, non, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes le camp du bien, c'est l'autre qui n'est pas normal. C'est l'autre qui est un fou, c'est l'autre qui est un psychanalyser, c'est l'autre qui est schizophrène, tout ce que vous voulez.
En même temps, il y a aussi le côté messianique des Américains qui n'a pas besoin d'être alimenté par ce que disent les psys, Pierre Gonissart.
Oui, oui, mais enfin, bon, ça, c'est quand même un choc. Hein. Quand vous habitez dans le Middle West, que vous voyez en direct l'écroulement des Twin Towers en plein centre de New York, on peut comprendre que, si vous voulez, il faille une couche supplémentaire. La simple théorie de la destinée manifeste ne suffisant pas. Bon. D'autant plus que dès que commence le rapport du Congrès, justement pour essayer de comprendre les événements du 11 septembre, il y a quand même une analyse sur les faillites du système américain. Pas sur les responsabilités, mais sur les faillites des services de renseignement, etc. Donc cette guerre du Golfe, si vous voulez, a cette caractéristique de nous rendre, si vous voulez, euphoriques sur notre capacité militaire et puis nous prendre en charge une responsabilité parce que bien qu'on connaisse Ben Laden, bien qu'on savait, on avait travaillé avec lui, etc., il reste que tout à coup, il faut rebalayer la planète pour remettre de l'ordre dans tout ça. Donc là, vous avez quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre du choc civilisationnel qui ne peut se résoudre que par la guerre. Et effectivement, c'est par la guerre, puisque en janvier 2002, George Bush décide que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, quel lien faut-il faire, Pierre Gonissart, entre le complexe militaro-intellectuel et le complexe militaro-industriel ?
Pour le complexe militaro-industriel, moi j'ai travaillé à l'exportation d'armement quand j'étais à la délégation générale pour l'armement, donc je connais cette catégorie au plus près. C'est une industrie de haute technologie. Sa dynamique et son centre de gravité, c'est la recherche. C'est-à-dire l'apport de haute technologie, évidemment pour des applications militaires, donc destinées à tuer. Mais je ne les ai jamais vus intervenir, si vous voulez, pour provoquer une guerre. Qu'ils profitent d'une guerre, oui. Je vous en prends un exemple. La guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak est intéressante, puisque la révolution... Dans les années 1980, oui. Non, c'est ça, puisque 79, c'est la révolution iranienne. Et donc, l'Iran, vous connaissez l'épisode, révolution populaire, ça c'est incontestable, mais islamique. Donc déjà, on ne comprend pas. Deuxième chose, effectivement, prise d'otage de l'ambassade américaine. Donc, si vous voulez, comme dans toutes les révolutions, il y a toujours des pagailleurs. Hein. Vous vous souvenez, c'est comme pour la révolution française. Donc, vous avez toujours des gens qui prennent leur initiative. Et c'est le kidnapping des diplomates américains qui vont rester en otage pendant 1000 jours quand même. Là encore, c'est un traumatisme important. Et donc, quand vous avez Saddam Hussein qui fait le tour des capitales occidentales pour leur dire « Attendez, moi, je vais m'en occuper. Si vous me garantissez que vous fournissez les armes, je peux effectivement réduire la révolution iranienne. » Et on va y aller. On va lui dire « Oui, oui, c'est très bien, bonne idée, c'est lui qui va le faire. » En plus, là, alors là, les industriels se sont beurrés, incontestablement. Alors, le problème, c'est que quand vous financez un pays qui est en guerre, mais que finalement, ça ne tourne pas aussi vite et aussi bien que s'il le disait, vous êtes pris dans un piège. Parce que si vous ne fournissez pas les armes, ils risquent de perdre. S'ils perdent, vous perdez de l'argent. Et donc, on est allé très loin dans la chose. Parce que n'oubliez pas quand même que c'est une décision d'aide à un pays agresseur pour mettre sous embargo un pays agressé. C'est quand même une nouveauté dans le droit international. Et donc, les Iraniens vont être, s'avérer plus coriaces qu'on l'imagine. Mmh. Vous avez des jeunes qui vont marcher sur des champs de mines pour ouvrir la porte à des combattants qui suivent. Et donc, au bout de 8 ans, c'est-à-dire deux fois la guerre de 14, 800 000 morts sur cette guerre, on aboutit au match nul.
L'Occident qui alimentait en armes les deux parties, on est d'accord
non,
aussi.
Non. Il y a autre chose. C'est-à-dire que les Américains se soient trouvés, à cause de la prise d'otages, obligés de fournir des armes par des voies détournées, oui. Mmh. La France n'a jamais fourni d'armes à l'Iran pendant cette guerre.
Non, l'Iran, non. Mais en fait, voilà, les pays occidentaux se retrouvaient antagonistes dans ce conflit.
Les Américains
On a vendu des armes à l'Irak.
L'Iran a probablement reçu des armes de la Russie, ce qui est fort possible, ça je ne sais pas, mais pas de l'Occident. Sauf, je vous dis, les conclusions de cette prise d'otages. Qui a fait qu'on a eu tout ce scandale qui s'est révélé par la suite, c'est-à-dire comment arriver à fournir des armes aux Iraniens. Mais encore une fois, on est sur quelque chose où, si vous voulez, le double standard enfin appliqué avec ces principes, je sais qui est le gentil, je sais qui est le méchant, si vous voulez, c'est là que joue ce complexe militaro-intellectuel. Et puis surtout, vous avez effectivement, on a diabolisé l'Iran, donc ça c'est définitif, l'Iran est dorénavant et systématiquement dans le camp des méchants. Qu'ils avaient raison, quoi.
Dans le cas ukrainien, ouais. Pierre connaît ça, complexe militaro-intellectuel, il vous semble à l'œuvre ?
Absolument, mais parce que, alors dans l'impact, si vous voulez, de la disparition du RSS, dans le champ de l'expertise scientifique, évidemment, les soviétologues sont rétrogradés. Évidemment, l'Union soviétique n'existant plus, vous n'êtes plus que spécialiste de la Russie. Et au contraire, on commence à chercher des gens qui connaissent un peu l'Ukraine, qui connaissent les pays d'Asie centrale, etc. Par contre, vous avez la montée en puissance des islamologues à partir du 11 septembre. Donc vous avez tout un champ, si vous voulez, de compétition, pendant lequel tout l'Occident va se préoccuper d'abord et avant tout du Moyen-Orient, de la poussée de l'islamisme, etc. Mais là aussi, on a une apparition de spécialistes du conflit, du complexe militaro-intellectuel, parce qu'encore une fois, sur chacun de ces cas, la machine chaîne d'infos en continu accélère le timing. C'est-à-dire, dès qu'il se passe un événement, ou même quand on couvre un événement, tous les jours, il faut annoncer quelque chose. C'est-à-dire que comme il faut que quand, sur une chaîne d'infos en continu, il y a environ 10 à 15 minutes, si vous voulez, d'informations réelles, publicité, etc., le reste, c'est du débat. Or, le débat, il faut alimenter 4 personnes autour d'une table. Et ces 4 personnes, si vous répétez ça pendant un certain nombre de jours en continu, vous faites apparaître, si vous voulez, des gens qui n'ont plus parfois une distance très très lointaine avec le sujet lui-même, mais qui sont considérés comme experts parce que médiatiques. Donc on renverse, si vous voulez, la problématique. C'est l'apparition sur les plateaux télé qui font qu'on est considéré comme un expert. Je vous prends volontairement un exemple hors système guerre. Vous l'avez bien vu sur le Covid. Sur le Covid, on a fait venir tous les médecins de la planète sur une maladie qu'on ne connaissait pas, pour dire le rhumatologue disait que, le sophrologue disait que, le pneumologue disait que, etc. Mais ils n'en connaissaient pas plus. Or, on voit bien qu'il y a une machine médiatique, si vous voulez, qui devait fournir tous les jours quelque chose. Et donc, on avait des gens qui avaient l'honnêteté de dire qu'ils n'en savaient rien, mais enfin, vous comprenez que l'angoisse est un peu comparable à celle du 11 septembre. Il fallait fournir des explications. Donc voilà comment la machine marche maintenant. Et donc, sur le cas de l'Ukraine, première remarque, je crois que moi-même, comme 90% des gens, on ne pensait pas que Poutine ferait la bêtise d'envahir l'Ukraine. Mmh. Ce qui vous prouve qu'on ne le connaît pas. Mais enfin, on ne le connaît pas et encore une fois,
nos services de renseignement n'ont pas non plus été d'une clairvoyance absolue, Pierre Conessa.
Non, c'est vrai que les Américains nous ont avertis, ils ont averti les Ukrainiens qui trouvaient qu'il y avait quelque chose d'étrange. On a constaté, nous, Français, que le patron de la DRM a été démis de ses fonctions. Mmh. Pourquoi ça se passe en France ? Parce que la France a un dispositif de renseignement qui est assez complet en la matière, avec de l'observation satellitaire, des interceptions, etc. etc. Et donc, alors que Biden nous avertissait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, nous, apparemment, on pensait... Mais là, on est dans le système officiel. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est hors système officiel. Et dans ce hors système officiel, effectivement, on avait des gens qui, comme beaucoup d'ailleurs, pensaient qu'ils ne feraient pas la bêtise d'eux, mais parce que là, c'est le rôle des politologues, c'est le rôle des universitaires, c'est le rôle des intellectuels que de dire comment raisonne Poutine avant la guerre. Or, il nous avait, envoyé plusieurs messages. Je vous en cite quelques exemples. Quand il arrive au pouvoir, n'oubliez pas qu'il succède à un ivrogne qui s'appelait Yeltsin. Alors, vraiment, c'était un ivrogne. Je veux dire, il était même en public, il était sous bois.
Boris Yeltsin.
Et donc, tout à coup, c'est le leader, si vous voulez, qui va montrer qu'il est sain, sportif et qui va rétablir les choses. Un de ses premiers actes, c'est d'arrêter un de ces oligarques qui ont pillé la Russie pendant l'époque Yeltsin. Ils arrêtent Khodorkovsky, vous vous souvenez de cet épisode. Beau mec, 25 ans, milliardaire. Ils l'arrêtent. Mais là, à ce moment-là, se mobilisent tous les droits de l'homiste, si vous voulez, d'Occident. Ils disent attention, il faut lui assurer un procès juste. Enfin, vous voyez la situation cocasse dans laquelle on était. Mmh. C'est-à-dire qu'on continue à donner des leçons, alors qu'on n'en avait pas donné pendant toute l'époque du pillage, si vous voulez. Bref, Khodorkovsky, la suite, vous la connaissez, il est arrêté, il est dépossédé. Mais ce qui est intéressant à cette fois sur l'autre aspect, c'est que Poutine avertit tous les oligarques que dorénavant, c'est avec lui qu'il faut travailler. Donc, il ne les a pas tous arrêtés. Il leur a simplement fait comprendre qu'ils voulaient sa part et qu'ils avaient intérêt à se tenir tranquille. C'est à ce moment-là que commence l'investissement immobilier de ces oligarques sur la Côte d'Azur, à Londres, etc., puisqu'ils pensent déjà mettre leur fortune à l'étranger. Donc, voyez cette situation sur la question de corruption. Poutine commence un travail de déblayage. Et puis ensuite, effectivement, il va intervenir dans quelques crises périphériques, comme la Géorgie, l'Abkhazie, tout ça. Mais il nous lance des avertissements. Il nous dit, faites attention, à la Verkunde, il y a 2-3 ans, il avait dit, vous avez étendu l'OTAN en dépit des engagements que vous aviez pris avec Yeltsin, qui n'ont jamais été formalisés, et vous installez des missiles nucléaires à la frontière. Chose qui était assez étonnante. Bon. Et donc, quand il lance ce genre d'avertissement, ben finalement, on se dit, non, mais on se dit rien d'ailleurs. Mmh. On se dit rien. C'est-à-dire, on dit pas non, il y a quelque chose qui va pas. Et il faut le comprendre. C'est pas le travail des services de renseignement, c'est le travail des analystes et des politiques. Parce que les services de renseignement, ce qu'on leur demande, c'est une information précise sur un point précis. Mmh. Ce qui avait alerté les Américains, et là on est dans le domaine du renseignement, c'est qu'on a bien vu que les mouvements de troupes du début de la guerre étaient destinés à prendre Kiev, puisqu'on avait des offensives par le nord. Mmh. Or, ça cale. Alors vous avez deux questions qui se posent. D'abord, pourquoi est-ce que ça cale avec une armée présentée comme théoriquement très largement supérieure? Et deuxième chose, effectivement, il va... Donc tout ça était effectivement possible à détecter par moyens satellitaires, puisque ces mouvements de troupes, en général, sont faciles à analyser. Et donc, deux questions. Est-ce que c'était un épouvantail, cette armée soviétique, cette armée rouge d'abord, et cette armée russe aujourd'hui? Et effectivement, l'armée rouge, on avait constaté en Afghanistan qu'il y avait des problèmes, si vous voulez, qu'on ne voulait pas voir. Parce qu'à l'époque de l'Afghanistan, vous n'alliez pas dire au complexe militaro-industriel occidental, vous savez, votre ennemi, vous montez la tête avec, il faudrait peut-être vous revenir à la réalité. Là, à ce moment-là, on vous disait, non, mais vous, cher ami, vous n'y connaissez rien, ils ont le missile machin, ils ont l'avion, etc. Ce qui est à la fois vrai et faux. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, les problèmes de cette armée sont des problèmes de logistique, sont des problèmes de morale, sont des problèmes de tout ce qu'on veut. Armée d'appelés, les appelés en Afghanistan, ils ont trinqué, hein, les appelés russes. Donc, ça laisse de mauvais souvenirs. Mais c'est pareil, quand vous avez un ennemi, il vaut mieux le présenter comme très, très, très menaçant et très, très fort.
Alors, justement, comment voyez-vous ce qui a cours aujourd'hui? C'est cette ukrainophilie que l'on retrouve partout face à une poutinophobie. De notre côté, ça vous paraît raisonnable? On a 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Pierre Connaisseur.
Non, c'est la mécanique qui se déchaîne sur les plateaux télé. C'est vrai que la Russie agresse. La Russie envahit un territoire. Mais quand cette Russie envahit l'Ukraine, on est face à deux problèmes de droit internationaux qui sont quand même des problèmes qu'on a nous-mêmes inventés. Le premier, c'est la base de l'organisation de l'ONU, c'est le respect de l'intégrité territoriale d'un État membre. Le deuxième aspect, né de la décolonisation, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc deux principes contradictoires, puisque vous savez, par exemple, pour la France, l'Algérie, c'était la France. Mmh. Bon. Et donc là, on est dans un cas pratique. Et effectivement, les Russes de la partie Est se sont agités pas mal après 2014. N'oubliez pas quand même qu'en dépit des deux accords de Minsk, français et allemand s'étant investis sur le sujet, la guerre a quand même continué. Il y a eu entre 13 000 et 14 000 morts quand même à la frontière. Donc la guerre continue.
Et avant les accords de Minsk, le mémorandum de Budapest.
Oui. On avait essayé des voies diplomatiques, mais il faut bien reconnaître que, si vous voulez, c'est Kiev qui ne respecte pas ses engagements. Alors, effectivement, c'est facile à dire a posteriori, mais enfin, tant que la guerre continue, vous avez des responsabilités des deux côtés. Et donc, on est sur quelque chose où, effectivement, le déclenchement du conflit, c'est-à-dire en l'occurrence la forme invasive de l'armée russe, est la suite d'un processus, il faut le prendre dans sa totalité. La deuxième remarque, c'est celle que fait le président Macron. La Russie sera encore là dans 50 ans. Donc, on a intérêt à considérer que la sécurité européenne se joue aussi avec eux. Et quand il dit « il ne faut pas les humilier », on sait que quand on humilie une ancienne puissance, il y a toujours ce sursaut qui risque de se déchaîner. Donc voilà, et c'est pour ça que quand tout le monde tombe sur le président en disant « comment, c'est inadmissible, regardez, il est prêt à céder », non, c'est pas vrai. Il fait un constat géopolitique, la Russie sera là, donc de toute façon, essayons. Probablement d'ailleurs, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, il y a encore 25 millions de Russes à l'extérieur de la Russie.
Effectivement, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission et on essaiera de comprendre aussi avec vous, Pierre Connaisseur, cette emprise entre guillemets du complexe militaro-intellectuel. Est-ce qu'il ne répond pas finalement à un vide, et c'est celui de l'absence de pensée stratégique? On vous retrouve après.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Notre invité, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel » paru aux éditions de l'Aube. Pierre Conessa, je le disais à la fin de la première partie de l'émission, ce complexe militaro-intellectuel que vous décrivez dans votre ouvrage, on en a parlé bien sûr dans la première partie de l'émission, il répond de façon évidente à un vide, c'est celui de l'absence de pensée stratégique.
Oui, vous avez raison, parce que le monde n'est plus aussi simple qu'à l'époque binaire, si vous voulez, où on savait qu'il y avait les communistes d'un côté et puis le monde libre de l'autre côté. Déjà, on était un peu en désarroi pendant les processus de décolonisation, parce qu'autant dans la guerre du Vietnam, il y avait des communistes, autant dans la guerre algérienne, il n'y en avait pas, mais on cherchait quand même toujours plus ou moins si ce paradigme binaire, si vous voulez, pouvait servir à expliquer. Donc, à l'époque, bon, c'était plutôt des engagements pour la décolonisation, mais il n'y avait pas de, comment dire, de réflexion sur un monde différent. Et donc, à partir du moment où effectivement l'URSS disparaît, là, il y a la place pour quelque chose, pour une analyse approfondie, mais encore une fois, dans un monde où il y a la pagaille la plus absolue. Repenser à la crise yougoslave. Le Yougoslavie était constitué en 1918 en disant « c'est la patrie des Slaves du Sud ». Ils étaient tous Slaves, ils parlaient tous la même langue, simplement il y en avait qui écrivaient en alphabet cyrillique, d'autres en alphabet latin, il y en avait catholiques orthodoxes, il y en avait catholiques romains, puis il y avait au milieu de tout ça des bosniaques musulmans. Bon. Tant qu'il y avait Tito, ça avait déjà chancelé hein, pendant l'entre-deux-guerres. Mais enfin bref, quand Tito arrive, si vous voulez, c'est silence dans les rangs. Donc on se dit, ça va, la Yougoslavie, ça n'est plus un problème. Dès que Tito meurt, on se retrouve face à ce problème, pour lequel les éléments d'analyse nous manquaient. C'est-à-dire, on savait bien que la Serbie tenait l'armée, on savait qu'il y a des massacres, mais on se rendait bien compte que personne ne savait précisément comment résoudre cette crise. Quand vous prenez la chose à l'échelle de l'URSS, à ce moment-là, vous êtes face à un problème immensément plus grave. Prenez le cas de la, comment dire, des 17 pays qui vont naître de l'éclatement de l'URSS. Dans tous ces pays, à l'époque soviétique, bon, vous étiez marié avec une Kazakh, vous pouviez aller vivre au Kazakhstan ou en Russie, ça n'avait strictement aucune importance. Mais tout à coup, avec l'éclatement, des frontières administratives deviennent des frontières politiques. Ces frontières politiques donnent naissance à des pays dans lesquels l'ancien colonisateur russe devient minoritaire, soumis à des gens qui ont souvent été malmenés par l'époque soviétique et qui n'ont pas obligatoirement l'intention de se venger, mais qui ont en tout cas l'intention de rappeler qu'ils sont chez eux. Rappelez-vous quand même que les multiples populations qui ont été maltraitées par Staline, qui les a déplacées, réappelées, réinvesties, etc., ne serait-ce que le cas des Tchétchènes, si vous voulez, c'est assez pathétique. Donc on peut penser que les Russes restant sur place ne sont pas obligatoirement considérés comme des amis ou en tout cas des gens avec lesquels il faut transiger. Donc on est sur quelque chose qui est effectivement un paysage qui est d'autant plus compliqué que la colonisation russe est une colonisation de la continuité territoriale. Quand nous, on quitte l'Algérie et le Vietnam, c'est fini, on peut en arrêter d'en parler. Pour eux, regardez dans le cas dans le Donbass, ils sont adossés à la Russie. Et donc, ces frontières qui étaient nées d'un jeune homme qui s'appelait Joseph Staline, commissaire aux nationalités, étaient évidemment faites pour que toujours Moscou puisse interférer dans tout. Qu'il n'y ait aucun État qui soit strictement homogène. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la chose se retourne contre les Russes et se retourne contre nous, parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose qui est une espèce de contradiction des principes du droit international, les deux que je vous citais tout à l'heure. Troisième strate, si vous voulez, qu'on a inventé aussi récemment, c'est le devoir de protéger. Et le devoir de protéger, si les Russes s'en étaient servis en disant « Mais attendez, vous l'avez fait en Libye, pourquoi on ne le ferait pas nous en Ukraine ?» Vous voyez bien qu'on aurait été très largement piégés. Il était difficile à ce moment-là de s'y opposer. Donc on est en plein désarroi parce qu'aucun de ces principes qui sont tous respectables ne sont compatibles entre eux.
Alors, il y a une chose dont je voudrais parler, et finalement j'anticipe ma question. Après ça, j'aimerais qu'on parle du mensonge parce que c'est un élément qui était une notion qui est assez présente dans votre ouvrage. Vous venez à l'instant de parler de la Libye. Est-ce que c'est, d'après vous, le plus grand échec de ces décisions prises par ce que vous appelez le complexe militaro-intellectuel, Pierre Conessa?
Moi, et d'autres exemples peut-être. Je prendrai un autre exemple pour vous montrer comment fonctionne l'appréhension médiatique d'une crise. Prenons le cas de la Somalie. La Somalie, vous vous souvenez, 93-94, on dit qu'il y a des gens qui pillent les convois humanitaires, ce qui est scandaleux, il y a des populations qui ont faim, etc. Moi, j'en avais parlé avec Broman. Broman me dit, mais écoute, j'ai appelé mes équipes de MSF sur place. Ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas, ils répartissent dans leur clan. Donc, si on augmente les quantités, on devrait arrêter ce genre de phénomène. Et pendant qu'il est, lui, en train de plaider cette cause, si vous voulez, vous avez Kouchner, ancien humanitaire, devenu ministre, qui, lui, décide de l'intervention militaire. Et cette intervention militaire, rappelez-vous, elle a deux caractéristiques. D'abord, qu'évidemment, on arrive flamberge au vent en se disant, vous voyez, c'est les forces du bien qui vont effectivement remettre un peu d'ordre. Le problème, c'est que le port d'importation, c'est Mogadiscio, qui est entre les mains d'un général qui s'appelle le général Haïdid, qui n'a aucunement l'intention de se voir écarté de la chose. Et donc, à la première des occasions où les Américains veulent le déloger, en fait, la chose tourne mal, puisque les troupes du général Haïdid abattent un hélicoptère, 20 morts, etc. Donc les Américains disent, attendez, c'est fini, il n'y a rien qui ne vaut la mort de 20 GIs. Donc ils se retirent. Ils se retirent et puis ils disent, bah, écoutez, ils ont qu'à se démerder. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne se préoccupe de ce qui se passe en Somalie. Vous avez des Chebabs, vous avez effectivement des islamistes, vous avez tout ça, vous avez la même famine. Mais vous voyez bien comment le phénomène médiatique, encore une fois porté par des gens qui tenaient des principes moraux, sans enjeu stratégique, quand finalement ça calme, on se retire. Et donc, il y a des crises aujourd'hui dont on n'a pas du tout l'intention de s'occuper.
Alors, le Yémen en fait partie.
Le Yémen, c'est pour autre chose, chère madame. Respectez l'Arabie Saoudite, s'il vous plaît. Non, vous voyez cette espèce d'hypocrisie incroyable. L'Arabie Saoudite, encore une fois, moi, quand j'ai exporté de l'armement, c'était le meilleur client de la France depuis les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'en moyenne lycée, c'était le plus gros acheteur. C'était d'autant plus tranquille que les Saoudiens n'achetaient pas des armes pour faire la guerre. Ils ne faisaient pas la guerre. Ils achetaient des armes pour avoir des garanties de sécurité. Donc, ils achetaient américains, ils achetaient anglais, ils achetaient français. Avec des garanties qui sont souvent dérogatoires à tout le droit international, c'est-à-dire la garantie de fourniture des armes, même s'ils étaient en guerre. Et puis, évidemment, l'approvisionnement continue selon la situation. À partir du moment où ils envahissent le Koweït et qu'ils vont bombarder, parce qu'ils n'osent pas mettre un type au sol, hein, quand même. Donc, c'est une campagne d'extermination pure et simple. Vous avez remarqué la virulence des critiques qui sont sorties des autorités officielles. J'espère que vous avez dressé l'oreille. Il n'y a eu aucune critique, aucune. Parce qu'on ne respecte l'Arabie Saoudite. Alors, moi, j'ai vécu un épisode qui est d'autant plus drôle, si vous voulez, que quand j'ai écrit le bouquin sur Dr Saoud et Mr Jihad, dans lequel j'analysais la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, qui s'est quand même traduite par l'expansion du salafisme absolument partout sur la planète, j'ai eu une note très sévère du Quai d'Orsay pour dire que j'étais saoudophobe. Bon, moi, j'ai pensé que c'était d'être saoudophile qui me paraissait un problème, mais enfin, visiblement, ce n'est pas le cas. Mais ça vous prouve simplement qu'à l'intérieur du système, vous avez des gens qui sont des défenseurs de l'Arabie Saoudite. Bon, il se trouve que le type était aussi le représentant de la France à l'Organisation de la coopération islamique. Donc, ce n'était pas l'individu auquel j'aurais confié la note critique, mais enfin, ça vous montre que le système, à l'intérieur, encore une fois, dit mais attention, attention, il y a des choses, il ne faut pas toucher. Bon. Donc, le Yémen, on peut massacrer des Yéménites, ce n'est pas un problème.
Il y a des pays auxquels on ne touche pas et c'est vrai que la question de l'Arabie Saoudite se retrouve aussi dans le cas américain. Vous parliez du 11 septembre. Les acteurs des attentats du 11 septembre étaient majoritairement des Saoudiens. Oui. Et tout cela est resté dans une impunité quasi totale.
C'était donc 15 Saoudiens sur 19, ça fait quand même un beau score. Et vous avez cette scène extraordinaire où, en janvier 2002, le président George Bush dit « L'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord ». Les Nord-Coréens, ils ont appris comme ça qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Bon, ils ne le savaient pas, mais voilà, George Bush les désigne. Et ce qui est plus intéressant, et ce que j'ai essayé de faire justement sur le lobby saoudien, c'est que dès le 12 septembre, vous avez une société de relations publiques qui s'appelle Corvis, qui vient voir l'ambassade saoudienne à Riyad pour leur dire, vous savez, vous avez tort de ne pas vous occuper de questions de communication, parce que là, vos affaires vont mal. C'est vrai que les Saoudiens vivaient dans une espèce de mépris total sur l'opinion publique internationale, mais là, ça commençait à chauffer. Corvis va donc faire un contrat très juteux, qui va se traduire par une action appliquée au Congrès et à la Maison-Blanche, pour essayer d'éviter les coups concernant l'Arabie Saoudite. Le résultat extraordinaire, c'est que George Bush classifie secret défense 28 pages du rapport du Congrès qui était essentiellement consacré au rôle de l'ambassade saoudienne dans le soutien des terroristes. Donc, vous voyez que finalement, ça peut être efficace. Mais ce qui est amusant, c'est que, vous voyez, si l'Arabie Saoudite a depuis contracté avec les 5 majors des relations publiques mondiaux, les 3 américains et les 2 françaises, c'est surtout pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Donc c'est une politique de communication qui est très originale. Et effectivement, l'essentiel va consister à empêcher qu'on ne parle de l'Arabie Saoudite. Regardez l'affaire Khashoggi. L'affaire Khashoggi, c'est à nouveau un drame. C'est un truc où, effectivement, un type va être découpé en morceaux dans un consulat saoudien.
Bon, En Turquie, en l'occurrence.
Oui, en l'occurrence, ils ont fait la bêtise de le faire en Turquie. Mais enfin, Khashoggi ne serait jamais rentré en Arabie Saoudite. Khashoggi, il avait un tort, c'est qu'effectivement, il appartenait à ce cercle des décideurs. Et donc, il savait comment se passait le pouvoir en Arabie Saoudite. Donc, il ne va pas du tout en Arabie Saoudite. Il se contente d'aller dans un consulat à Istanbul. Bon, il se trouve que les Turcs avaient sonorisé le consulat, donc ils savaient tout ce qui s'y passait, etc. Mais enfin, c'est eux qui vont progressivement révéler le scandale. C'est-à-dire que quand la femme de Khashoggi qui attend dehors dit « Mais attendez, il n'est pas sorti », les Saoudiens disent « Si, si, il est sorti, regardez nos images ». Et puis les Turcs disent « Non, non, regardez, quand on est à l'aéroport, c'est pas lui », etc. Et donc, le scandale va s'amplifier, si vous voulez. Et donc, on va arriver à cette chose extraordinaire, que vous avez un individu qui a été découpé en morceaux C'est de l'écarissage, on appelle ça en boucherie. Ils l'ont découpé en morceaux pour se débarrasser de lui. Je ne sais pas s'ils l'ont noyé dans de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais quand vous comparez avec ce que Poutine avait fait avec Skripal, vous dites, mais regardez le scandale que ça a provoqué.
Skripal, on va mettre sous embargo. Ça se passe à Londres, dans un parc, un ancien membre du KGB qui est assassiné. Parce que
oui, qui est assassiné, qui est empoisonné. Et donc vous dites, regardez, c'est scandaleux. On a mis sous embargo des oligarques russes, etc. Mais strictement rien contre les Saoudiens. Donc moi, je reste un candide, si vous voulez. Je me dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Alors, et ça n'a pas empêché la visite récente de Joe Biden en Arabie Saoudite, lui qui prépare les élections de mi-mandat en novembre prochain et qui s'était promis juré de ne jamais parler avec Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, mais plutôt à son père. Le mensonge, Pierre Conessa, c'est une notion qui est très présente dans votre ouvrage. Vous parliez tout à l'heure de l'armée russe. Les chefs militaires russes ont menti à Vladimir Poutine sur le dossier de l'Ukraine. J'ai cette phrase qui n'est pas in extenso de l'historien Marc Bloch qui parlait du mensonge comme de la pire lèpre de l'âme. Le mensonge dans les questions de relations internationales, c'est quelque chose qui est, alors on l'a vu, dans le déclenchement de la guerre en Irak. Ça vous inspire quoi ?
Ben écoutez, oui, d'abord le mensonge est un appendice politique. Je veux dire, rassurez-vous, il n'y a pas que sur les questions internationales quand même. Donc sur les questions internationales, c'est d'autant plus actif et utile que vous parlez à votre communauté d'un objet qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire, vous allez qualifier l'autre, que ce qu'il soit irakien, qu'il soit saoudien, qu'il soit iranien, peu importe. Mais c'est votre propos qui va prendre le pas, si vous voulez, sur la réalité ou sur l'analyse. Et donc, le mensonge, ben regardez le cas de Poutine, par exemple. Poutine, en même temps, avant la guerre, parlait de négociations dans les derniers jours qui précèdent la guerre. Et en même temps, il avait déjà redéployé ses armées sur 5 axes de pénétration de Kiev, sur Kiev. Donc, on se dit, effectivement, le type est un menteur. Maintenant, si vous voulez d'autres exemples de mensonges, je veux dire, on peut passer beaucoup de temps. Donc, le mensonge est effectivement un outil qui, finalement, va être excusé si en cas de victoire ou éventuellement servir dans un débat politique interne. Vous savez, la caractéristique en politique, pour les avoir fréquentés de près, en politique, il faut se méfier de ses amis, pas de ses ennemis. Ses ennemis, on sait où ils sont. Vos amis, c'est ceux qui peuvent vous planter un couteau dans le dos parce qu'ils sont à côté de vous. Donc, vous savez, ça finit par fournir un état d'esprit qui est assez compliqué, dans lequel le mensonge est un outil indispensable de la gestion politique.
Alors, le temps avance. Il y a cette question que je voulais vous poser concernant toujours ce complexe militaro-intellectuel. Vous avez, alors on n'a pas parlé, mais vous l'avez évoqué en la première partie de l'émission, en filigrane, vous disiez qu'il y avait une sorte de fascination pour tout ce qui se dit aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, les universités ont quand même peut-être d'autres moyens que nulle part ailleurs au monde et que donc les intellectuels produisent. Mais dans ce complexe militaro-intellectuel, il n'y a pas que des gens, des sachants, entre guillemets, en tout cas en tant que tels, des universitaires, etc., ou des personnes qui travaillent dans les think tanks. Il y a aussi, Pierre connaît ça, des militaires à la retraite qui ont aussi un rôle.
Oui, bien sûr. Les militaires à la retraite, mais eux, apparaissent tardivement. C'est-à-dire que là, on les a surtout beaucoup vus avec l'Ukraine. Moi, ce qui m'amuse beaucoup plus, si vous voulez, c'est la comparaison entre la France et les États-Unis. C'est le rôle que jouent les intellectuels dans le dispositif français. Vous savez, aux États-Unis, entre la côte Est et la côte Ouest, entre la multiplicité des lieux de savoir, des think tanks, etc., vous n'avez pas le parisianisme français. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce centre qui est capital politique, économique, culturel, civilisationnel, tout ce que vous voulez, et qui fait que là, effectivement, surtout dans le cercle du 5e, 6e, 7e arrondissement, vous avez une concentration d'intelligence comme nulle part ailleurs sur la planète. Et donc, les Français ont une espèce de fascination pour les intellectuels. Alors, ça s'ancre dans l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, ça remonte à l'époque de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le moment où vous aviez des philosophes universalistes, Diderot, Voltaire, etc., qui vont effectivement être admirés de la planète entière. Et donc, l'idée du philosophe universaliste, c'est un premier pas. Le deuxième, c'est Zola. Zola, c'est l'homme qui, en tant qu'intellectuel, va défendre un juif contre une institution intouchable qui était l'armée. Donc, si vous voulez, ça crée une tradition. Donc, il y a une espèce d'appétence des Français pour les intellectuels, et surtout quand ils sont effectivement forts d'une idéologie pour expliquer le monde. Alors, là où ça clash, si vous voulez, c'est avec le cas de Sartre. Parce que Sartre, il n'y a pas un type qui s'est plus trompé sur les questions internationales. Il a été stalinien, il a été maoïste, il a été khmer, tout ce que vous voulez. Mais il avait cette espèce d'aura où il vous expliquait que c'est pas, vous croyez qu'il y avait des goulags en URSS, mais tout ça, c'était pour le plus grand bien de l'humanité, si vous voulez. Et pareil pour le maoïsme, où on voyait là une régénérescence du marxisme. Enfin, bref, Il a fallu attendre la mort de Aaron pour qu'on reconnaisse que celui qui ne s'était pas trompé, c'était l'autre. Mais l'autre, il était diabolisé puisqu'il était de droite. Vous voyez cette espèce de paradoxe français. Aujourd'hui, on a effectivement une autre génération d'intellectuels médiatiques. Bon, BHL essaye de faire la même chose, mais lui, il ne fonctionne pas sur le même principe. C'est-à-dire, lui, il paye ses voyages, il revient et puis il dit « Je reviens d'eux, ici passe un massacre, je ne peux pas ne pas ». Il a 4 génocides en stock actuellement, BHL.
Donc, vous Bernard avez Henri Lévy, hein, pour nos auditeurs.
Bernard Henri Lévy, oui, pardon, excusez-moi, c'est pour les auditeurs. Et donc, vous avez quelqu'un, mais ça n'est plus le prestige qu'avait Sartre, rappelez-vous, qui reçoit le prix Nobel, etc. Donc, il y avait une espèce de reconnaissance pour quelque chose qu'on croyait être le spécifique de l'intellectuel français. Bon, maintenant, on est quand même quelque chose qui est plus limité. C'est pas le seul, mais encore une fois, il n'est que la figure de proue de ce complexe militaro-intellectuel où vous avez effectivement aussi des humanitaires, vous avez effectivement Kouchner est devenu un humanitaire militariste. Enfin bref, vous avez d'autres, des strates, si vous voulez, les psys, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, vous avez tout ce monde-là, c'est, vous voyez, qui va, par accession au plateau télé, va peser dans la décision politique.
Alors, ce que vous évoquez, qui, moi, me touche, parce que finalement, on l'a vécu dans nos histoires professionnelles, la question de la droite, la gauche, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de tolérance sur les dictatures de gauche qu'il n'y en a eu sur les dictatures de droite. Est-ce que cela se poursuit aujourd'hui?
Ben d'abord, les dictatures de droite et de gauche ont fini par se ressembler. Donc ça devient difficile de savoir si on critique pour des raisons de droite ou des raisons de gauche. Mais c'est vrai que pendant toute l'époque de la guerre froide, vous aviez des gens qui étaient campés sur des positions fermes et radicales. Effectivement, encore une fois, c'est un effet indirect de la disparition de l'URSS. C'est que vous apercevez qu'une dictature est nue, qu'elle soit de droite ou de gauche, elle a les mêmes pratiques. Donc ça joue moins aujourd'hui pour expliquer, que pour justifier. Si vous voulez, après 91, nos intellectuels partent à la quête de la bonne crise. Et la bonne crise, ça va consister à dire, j'en viens, je sais qui sont les gentils, qui sont les méchants. On ne peut pas ne pas, qui est l'argumentaire pour expliquer qu'il faut faire quelque chose.
C'est plus une décision par défaut, hein, finalement. C'est cela.
Oui, et puis c'est marché ouvert, si vous voulez. Gâte sans crise, il y a de quoi prendre faire son choix là-dedans. Et donc, la médiatisation d'une crise par l'intermédiaire de quelqu'un qui a l'accès aux médias parisiens est une bonne manière de faire remonter dans l'agenda international, si vous voulez, l'importance de cette crise. Quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, quelle qu'en soit la gravité. Donc, vous voyez bien qu'on est passé successivement à un certain nombre de crises dans lesquelles on a envoyé des militaires, les militaires ayant le tort d'être obéissants, si vous voulez, ils y vont, mais ils détestent, parce qu'on leur demande de faire de l'interposition, de l'humanitaire, de l'assistance médicale, et ils disent, mais nous, on est là pour faire la guerre. Et quand on est là et qu'on intervient, nous devenons cibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus les moyens, si vous voulez, de se défendre. C'est ce qu'on a connu à Sarajevo, si vous voulez, où effectivement, la simple interposition ne suffisait pas. Ils étaient sous titre 5, si je ne m'abuse, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas les moyens d'avoir des actions offensives. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose où on était dans une espèce d'angélisme. Bon, BHL a quand même à son actif le fait d'avoir provoqué la visite de Mitterrand à Sarajevo. Ce qui est ça, effectivement, était un événement important. Mais après, la suite de l'histoire, j'arrête. Mais encore une fois, il n'est pas le seul. Hein. Il ne faut pas s'acharner sur l'ambulance.
Pas stigmatiser. Ce sera ma dernière question. On a bien compris cette légitimation de certaines guerres et l'ignorance d'autres. La guerre en Ukraine, elle s'essouffle. Pierre connaît ça. Est-ce qu'elle s'essouffle parce qu'il y a un moindre intérêt médiatique?
Non, elle s'essouffle d'abord parce que la résistance ukrainienne s'avère beaucoup plus coriace que ne le pensaient les Russes. Probablement, Poutine devait être entouré par des généraux. Peut-être savait-il dans quel état était leur armée, je n'en sais rien. Bon, toujours est-il qu'effectivement, on la voit sur le terrain, ce n'est pas franchement une réussite. Donc, elle risque de s'enliser de ce côté-là. C'est-à-dire que l'issue militaire va dépendre de ce que Poutine va décider de la fin de la guerre. C'est-à-dire, est-ce que le seul fait de conquérir le Donbass qu'elle donnait, ce qui suffira pour considérer qu'il a rempli ses objectifs? Ça, personne ne le sait aujourd'hui. Deuxième chose, l'intérêt médiatique, vous voyez bien qu'il s'est transposé sur le débat germano-pratin. Alors effectivement, si vous avez l'occasion d'aller faire un pèlerinage à Kiev et que vous écrivez « Liberté, égalité, fraternité », vous faites un grand acte politique qui fait frémir Poutine. Mais indépendamment de ça, vous voyez bien que ces intellectuels-là, à la différence de leurs grands ancêtres, de Malraux ou de Bray, ne vont pas faire la guerre. Donc ils veulent bien qu'on envoie des militaires, ils préfèrent ne pas y aller eux-mêmes.
Merci Pierre Conessa. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel » paru aux éditions de l'Aube. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Lapointe.